Il faut savoir qu'à la paix d'Utrecht, le roi de France avait rendu la ville et le comté de Nice au duc de Savoie, et qu'après en avoir fait l'évacuation, il laissa dans Nice un commissaire pour régler les affaires, soit de dettes ou autres, qui étaient en discussion entre la cour de France et celle de Turin. Ce commissaire français se nommait M. Carbonneau. C'était un jeune homme qui, quoiqu'il ne fût pas gascon de naissance, savait parfaitement bien s'en donner les airs. Chacun sait que les gens de cette province affectent extrêmement la générosité, et qu'ils sont toujours prêts à offrir et à rendre leur service à ceux qu'ils adoptent pour leurs amis de cœur. Il était en ces termes avec M. Bonijoli, car, comme ce dernier était le seul Français qui fut à Nice, que d'ailleurs ses fils et ses filles, parfaitement bien élevés, étaient à peu près de l'âge du commissaire, ce dernier s'était si bien appatronisé chez M. Bonijoli, et était si bon ami de lui et de sa famille, qu'il était avec eux comme l'enfant de la maison. Ce fut au souvenir de ce commissaire français que M. Bonijoli forma le projet qu'on va voir et qui réussit à merveille. Il pria le patron Jovas de lui confier la copie de sa soumission, ce que le patron fit volontiers. Il nous pria ensuite de patienter un peu, après quoi il sortit et revint une heure après, accompagné du commissaire français. Ce commissaire interrogea le patron Jovas avec un air d'autorité que sa charge lui donnait. Il lui demanda d'où il venait, d'où il était et de quoi sa barque était chargée. Le patron lui ayant répondu à tout, ce commissaire lui ordonna de la part du roi de France de débarquer ses 36 hommes et de les conduire à Nice, lui défendant, sous peine de désobéissance, de sortir du port de Villefranche avec sa barque que par ses ordres. Le patron s'y soumit, alla à Villefranche sur le champ et conduisit le reste de nos frères à Nice. Monsieur Bonijoli, après leur avoir fait un accueil digne de son zèle, les logea dans différentes auberges à ses frais, ordonnant de les bien traiter. Pour nous quatre, il nous retint dans sa maison, nous faisant la meilleure chère qu'il lui fut possible pendant 3 jours que nous séjournâmes dans cette ville. Ces 3 jours furent employés à satisfaire la vanité du commissaire. Il nous faisait venir tous les matins devant sa maison, et se tenant sur un balcon en robe de chambre avec une liste de nos noms à la main, il nous appelait l'un après l'autre, nous demandait, d'un air d'autorité et de petit maître qui nous faisait rire en nous-mêmes, d'où nous étions, le nom de nos parents, quel âge nous avions, et autres inutilités semblables. Le tout pour faire voir sa petite autorité, qu'il estimait très grande, à une foule de bourgeois de la ville qui s'assemblaient devant sa maison pour voir ce que c'était. Monsieur Bonijoli nous avait prévenu que ce sieur commissaire s'en faisait un peu à croire, et il nous exhorta à nous soumettre par politique à ce qu'il exigerait de nous. Quoique en vérité sa suffisance fût un peu outrée, car il nous faisait venir une heure ou deux devant lui, le chapeau bas avec un air de soumission que nous n'étions pas obligés d'avoir à son égard, et que nous n'aurions pas pris, étant hors de la domination de la France, sans l'espérance que nous avions que ce commissaire nous aiderait efficacement à poursuivre notre route de Nice à Genève. En effet, le 3e jour de cet exercice, et après s'être rassasié de l'encens qu'il s'était donné, il fit venir chez lui le patron Jovas et lui mit un papier en main, lui disant de le lire et de lui dire s'il en était content. Ce papier, très authentique, étant honoré des armes du roi imprimées et portant en grosses lettres un 2 par le roi, disait que lui, commissaire ordonnateur pour sa majesté très chrétienne, ayant appris qu'il était entré dans le port de Villefranche, une barque française, qui avait été chassée et poursuivie jusqu'à l'entrée du dit port par 2 corsaires napolitains, il s'était rendu au dit Villefranche et avait trouvé cette barque être de Marseille, chargée de 36 hommes délivrés des galères de France, allant en Italie, et qu'ayant visité et examiné tant la barque que les hommes, il avait trouvé qu'ils étaient dénués de tout vivre et qu'ils n'avaient pas le moyen de s'en pourvoir, que d'ailleurs les 2 corsaires napolitains attendaient en mer à la vue de Villefranche, que cette barque sortit pour s'en saisir, que cette considération et celle de l'état où ces 36 hommes se trouvaient sans vivres ni argent avaient porté lui, commissaire, toujours attentif aux intérêts de la nation française, à ordonner, de la part du roi au patron de cette barque nommé Jovas, de débarquer ces 36 hommes pour qu'ils prissent de là leur route pour Genève, lieu de leur destination. Et que, malgré la protestation que le dit patron avait faite en vertu d'une soumission qu'il avait signée à Marseille, s'engageant sous de grosses peines à ne les pas débarquer à Villefranche, lui, commissaire, l'y avait contraint et forcé en vertu de l'autorité que sa majesté lui avait confiée dans le comté de Nice, etc. Ayant remis cette déclaration au patron Jovas, il lui demanda s'il en était content. « Très content, monsieur, » répondit le patron. « Eh bien, » répartit le commissaire, « tu peux faire voile pour Marseille quand tu voudras. » Et tu n'as qu'à jeter sur moi toute la faute qu'on t'imputera comme t'ayant forcé à m'obéir. On peut juger si ce patron était satisfait. Il se voyait affranchi d'un plus long voyage, et son argent, que nous lui payâmes d'abord, facilement gagné. Il partit donc pour Marseille, et en prenant congé de nous, il nous promit d'avertir les deux autres barques qu'il rencontrerait sur sa route, de venir à Villefranche pour y recevoir les mêmes traitements que lui, de cet honnête commissaire qui n'avait pas daigné d'inventer tant de prétextes faux pour lui faire plaisir et à nous. La suite a fait voir que le patron Jovas nous tint parole, car les deux barques suivantes furent à Villefranche et firent le même manège que lui. Ainsi, tous les 136 délivrés débarquèrent dans ce dernier port et de là, firent route pour Genève. Après le départ du patron Jovas, M. Bonnet-Joly se prépara à nous faire partir. Il loua 36 montures, la plupart des mules pour nous porter à ses frais jusqu'à Turin, avec un postillon au guide pour nous y conduire. Nous partîmes donc de Nice au commencement de juillet, nous, 36, chacun sur sa monture. Nous avions quelques vieillards décrépits qui nous donnèrent bien de la peine, ne pouvant se tenir à cheval. Nous traversâmes avec beaucoup de fatigue, quantité d'affreuses montagnes, nommément celle qu'on appelle le Côte de Tende, dont la cime est si haute qu'elle paraît toujours être dans les nues. Et quoique nous fussions dans le plus chaud de l'été, et qu'au bas de cette montagne on brûla de chaleur, étant arrivés sur sa cime, nous souffrions un tel froid qu'il nous fallut descendre de cheval et marcher pour nous réchauffer. La neige et le verglas est toujours là, d'une hauteur prodigieuse. Cependant, on n'a pas de peine à monter cette montagne, toute haute et escarpée qu'elle est, car elle est à 3 lieues de montée, et l'on y a pratiqué un chemin fort commode en zigzag, par lequel on monte sans s'apercevoir de la roideur de la montagne. Nous la redescendîmes pour entrer dans la plaine du Piémont, le plus beau et agréable voyage du monde. Sans m'arrêter à décrire les villes, bourgs et villages par où nous passâmes, et dont aussi bien les noms me sont la plupart échappés, nous arrivâmes à Turin, capitale du Piémont et la résidence de Sa Majesté Sardinoise. Nous couchâmes dans des auberges et dès le lendemain au matin, nous eûmes la visite de plusieurs Français protestants, dont il y en a toujours bon nombre qui font leur résidence dans cette ville pour leur commerce et qui vont dans les vallées prochaines des Vaudois assister au service divin. Ces messieurs, à qui M. Bonnet-Joly avait annoncé notre arrivée, nous reçurent avec zèle et cordialité, nous défrayant de tout pendant 3 jours que nous séjournâmes dans cette grande ville, après quoi, nous ayant préparé des montures pour poursuivre notre route, ils furent supplier le roi de Sardaigne de nous faire donner un passeport pour traverser ses états jusqu'à Genève. Sa Majesté, qui était pour lors Victor Amédée, voulut nous voir. 6 de nous furent admis à son audience. Les ambassadeurs de Hollande et d'Angleterre s'y trouvèrent. Sa Majesté nous fit un favorable accueil, et pendant une demi-heure nous interrogea sur le temps que nous avions été sur les galères, la cause pourquoi, et les souffrances que nous avions endurées. Et après que nous lui eûmes succinctement répondu, il se tourna vers les ambassadeurs et leur dit « Voilà qui est cruel et barbare !» Ensuite, Sa Majesté nous demanda si nous avions de l'argent pour faire notre voyage. Nous lui dîmes que nous n'en avions pas beaucoup, mais que nos frères, nommément M. Bonnet-Joly de Nice, avaient eu la charité de nous défrayer jusqu'à Turin, et que nos frères de Turin se préparaient à en faire de même jusqu'à Genève. On nous avait averti de répondre ainsi à cette demande, sur quoi Sa Majesté nous dit « Vous pouvez rester dans Turin tout autant qu'il vous plaira pour vous y délasser, et lorsque vous en voudrez partir, vous pourrez venir à ma secrétairerie et y prendre un passeport que je donnerai ordre de tenir prêt. » Nous dîmes à Sa Majesté que si elle le trouvait bon, nous partirions dès le lendemain. « Allez donc à la garde de Dieu, » nous dit ce prince, et il ordonna sur le champ au secrétaire d'État de nous expédier un passeport favorable, ce qui fut fait. Ce passeport contenait non seulement de nous laisser passer par tous ces États, mais ordonnait même à tous ses sujets de nous aider et secourir de tout ce dont nous aurions besoin pendant notre route. Nous ne fûmes pas dans le cas, grâce à Dieu et à nos frères de Turin, qui pourvurent abondamment à tout et nous défrayèrent jusqu'à Genève. Il se trouva à Turin un jeune homme de cette dernière ville, horloger de profession, qui voulant aller à Genève nous pria de s'offrir sa compagnie dans notre route, ce que, lui ayant accordé volontiers, il nous suivit à pied jusqu'à 2 journées de Genève, où il prit congé de nous, disant qu'il savait de là une route pour les voyageurs à pied qui lui abrégerait le chemin d'un jour. Nous lui souhaitâmes bon voyage. Effectivement, il arriva à Genève un jour avant nous, et ayant raconté dans la ville que 36 confesseurs, délivrés des galères de France, devaient arriver le lendemain à Genève, le vénérable magistrat de cette ville le fit appeler pour qu'il leur confirmât cette nouvelle. Le lendemain, jour de dimanche, nous arrivâmes à un petit village sur une montagne, environ 1 lieue de Genève, d'où nous voyons cette ville avec une joie qui ne peut être comparée qu'à celle des Israélites à la vue de la terre de Canaan. Il était environ midi lorsque nous arrivâmes à ce village et nous voulions poursuivre sans nous y arrêter pour dîner, tant notre ardeur était grande d'être plutôt dans une ville que nous regardions comme notre Jérusalem. Mais notre postillon nous dit que les portes de Genève ne s'ouvraient le dimanche qu'après le service divin, c'est-à-dire à 4 heures de l'après-midi. Il nous fallut donc rester dans ce village jusqu'à ce temps-là, lequel venu nous montâmes tous à cheval. À mesure que nous approchions de la ville, nous apercevions une grande affluence de peuple qui sortait. Notre postillon en parut surpris, mais bien plus lorsque, arrivant dans la plaine de Plainpalais, à un quart de lieue de la ville, nous aperçûmes venir à notre rencontre trois carrosses entourées d'alebardiers et une foule innombrable de peuples de tout sexe et de tout âge qui suivaient les trois carrosses. D'aussi loin qu'on nous vit, un serviteur du magistrat s'avança vers nous et nous pria de mettre pied à terre pour saluer avec respect et bienséance leurs excellences de Genève qui venaient à notre rencontre pour nous souhaiter la bienvenue. Nous obéîmes. Les trois carrosses étant approchées, il sortit de chacun un magistrat et un ministre qui nous vinrent toutes s'embrasser avec des larmes de joie et avec des expressions si pathétiques de félicitations et de louanges sur notre constance et notre résignation qu'elles surpassaient de beaucoup ce que nous méritions. Nous répondîmes en louant et magnifiant la grâce de Dieu qui seul nous avait soutenus dans de grandes tribulations. Après ces embrassements, leurs excellences donnèrent permission au peuple d'approcher. On vit alors le spectacle le plus touchant qui se puisse imaginer, car plusieurs habitants de Genève avaient divers de leurs parents aux galères, et ces bons citoyens, ignorant si ceux pour qui ils soupiraient depuis tant d'années étaient parmi nous, dès que leurs excellences eurent permis à ce peuple de nous approcher, on n'entendit qu'un bruit confus. « Mon fils, un tel, mon mari, mon frère, êtes-vous là ?» Jugez les embrassements dont furent accueillis ceux de notre troupe qui se trouvèrent dans le cas. Au général, tout ce peuple se jeta à nos coups avec des transports de joie inexprimables, louant et magnifiant le Seigneur de la manifestation de sa grâce en notre faveur. Et lorsque leurs excellences nous ordonnèrent de remonter à cheval pour faire notre entrée dans la ville, nous ne pûmes y parvenir qu'avec peine, ne pouvant nous arracher des bras de ces pieux et zélés frères qui semblaient avoir encore peur de nous reperdre de vue. Enfin, nous remontâmes à cheval et suivîmes leurs excellences qui nous conduisirent comme en triomphe dans la ville.